Voilà, chers amis, heureux d'être parmi vous avec un sujet négatif. Quand Jésus dit non, c'est pas bien d'être négatif. D'autant plus que pour le Seigneur, on est toujours positif. Parce que on s'approche de lui, on croit qu'il va nous aider. Si on demande quelque chose, il va nous dire oui. On croit qu'il va être positif. Pourtant, comme Daniel l'a dit dans son introduction, Dieu a quand même le droit de dire non parfois. Et Jésus aussi a dit non parfois. Et il nous demande de dire oui ou non selon la vérité. Et comme le disent les trois lectures que je vous partage, d'abord Matthieu 5, où Jésus dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Comme si le Seigneur veut nous rendre compte que nous devons savoir ce que nous voulons. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? C'est l'un ou l'autre. Une fois, il avait dû demander à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est important de savoir où nous voulons aller, ce que nous voulons, et ce que nous voulons de la part du Seigneur. Alors l'apôtre Paul emploie cette phrase également dans 2 Corinthiens. « Est-ce que j'ai usé de légèreté ?» demande-t-il aux Corinthiens. « Est-ce qu'il y a eu en moi le oui et le non ?» Non, connaissant Paul, c'est oui ou c'est non. C'est l'un ou l'autre. Et Jacques, qui est aussi très radical, il dira « Que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Et c'est vrai que Christ est vraiment notre exemple. Que ce soit ses sentiments, ayez les sentiments qui sont en Christ, que ce soit ses paroles, ses actes, ses idées, sa vie, nous sommes toujours invités à limiter, pas limiter, mais limiter. Voyez la nuance. Alors plus nous étudions la vie de Christ, plus nous sommes émerveillés de la qualité de son caractère et c'est normal que nous aspirons à lui ressembler. Voyez Jésus, comment il accueille. L'accueil de Jésus est quelque chose d'extraordinaire. Il ne refuse pas ceux qui viennent à lui. Même un pharisien dont Jésus a dû dénoncer la mentalité, qui a peur de venir auprès de lui le jour, Nicodème, et qui vient la nuit, incognito, il prendra le temps pour lui parler. Et c'est vrai que Jésus condamne le péché, mais il accueille le pécheur. Jésus s'est fâché une fois, fort, contre les vendeurs du temple. Vous vous souvenez de ce récit? C'est un récit un peu difficile. J'avais préparé un exposé sur ce texte et je ne l'ai jamais terminé. Mes notes sont là, je ne sais rien en faire parce que le texte est difficile. Jésus renverse les tables avec le fouet. Et on ne s'imagine pas Christ comme ça. Ça, ce n'est pas Christ. Comment est-ce possible? Et pourtant, lorsque nous lisons toute l'histoire de Christ, nous voyons qu'il n'est pas colérique. Jésus a connu la tristesse, l'angoisse, comme dans le jardin de Gethsémané. Pourtant, on ne peut pas dire que c'est un dépressif ou un maniaco-dépressif. Jésus transforme l'eau en vin aux noces de Cana, un vin supérieur. Pourtant, ce n'est pas un alcoolique. Voyez-vous, Jésus, il nous étonnera toujours. Et il parle librement, mais il sait aussi se taire. Et pour ne pas qu'on lui donne raison lors de son jugement, il va se taire, parce qu'il veut aller jusqu'au bout pour le sacrifice de l'humanité. Et lors du procès avec Ponce Pilate, il n'aura qu'une réponse, tu le dis. Et il ne répondit rien aux accusations, dira Matthieu 27. Le silence de Dieu est toujours troublant. Quand Dieu ne nous répond pas, oui, ça fait peur. Et ça nous renvoie à notre responsabilité. Est-ce que Jésus disait parfois non ? Oui, nous avons quelques textes qui le montrent. J'ai essayé de résumer en trois circonstances. Et pourtant, Jésus n'était pas négatif de nature, parce qu'il voyait toujours le potentiel chez les gens. Alors, à l'exemple de Jésus, nous sommes invités à ne pas dire oui à tout, à ne pas tout accepter. Que votre parole soit oui ou que votre parole soit non. Donc, il nous invite à dire ce que nous pensons réellement et à penser ce que nous disons réellement, sans hypocrisie, être vrai, sans mensonge. En psychologie, on appelle ça l'assertivité. Alors, être assertif en psychologie, c'est la capacité de dire ce qu'on pense réellement sans que cela nous fasse du tort. La capacité de dire non, si c'est non que nous pensons, sans que cela nous trouble, que ça nous énerve ou qu'on se fâche en le disant. Il faut pouvoir dire non, si c'est non, calmement, normalement, sans pour cela en rajouter, parce que quelque part on est gêné de dire non. Alors on en rajoute, on se fâche et on s'énerve. Donc cette assertivité en psychologie, c'est quand même précieux d'avoir cette capacité d'être vrai et de dire les choses telles que nous les pensons réellement, sans excès aussi. Parce que la parole de Dieu aussi nous met en garde contre le négativisme, bien sûr, comme il est dit dans Hébreux 12, qu'il n'y ait pas une racine d'amertume qui pousse des rejetons et qui produise du trouble et qui infecte plusieurs personnes. Alors certains disent oui à tout, ils ne savent pas dire non, et certains disent non à tout. Ils sont tellement négatifs que c'est toujours non, non pour tout. Et Dieu voudrait que nous amener à être simplement justes, équilibrés, réalistes. Et c'est étonnant que Dieu, dans sa Trinité, nous donne dans sa parole quelques refus. Dieu lui-même dit non, parfois. Et il y a un texte terrible dans Ésaïe 1, le verset 15, qui dit « Quand vous étendez vos mains vers le ciel, je détourne mes yeux. Je détourne mes yeux. » Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi ? Vos mains sont pleines de sang. Voilà. Ésaïe 1,15. Pour l'esprit, on peut dire que aussi l'esprit peut dire non. Nous avons des exemples où l'esprit de Dieu dit non. L'esprit de Dieu a dit non à Paul de ne pas prêcher en Asie à un moment donné, acte 16. Et il souffle où il veut. Donc, Jésus a dit non. Et la première occasion qui nous vient à l'esprit où Jésus a dit clairement non, c'est quand il a été tenté par le diable dans le désert. C'est vraiment un exemple remarquable qui se trouve dans Matthieu au chapitre 4. Jésus est tout au début de son ministère public. Il vient de passer 40 jours dans le désert pour prier, jeûner. Et c'est là que Satan vient, en profite, pour le tenter dans sa faiblesse physique. Elle est dit au verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors vous voyez la ruse du diable, la ruse vraiment, montrer ces belles pierres rondes et lui faire imaginer que ça devienne des hamburgers. Lui qui a une faim terrible de 40 jours, vous imaginez. Et alors on pourrait dire, mais quand même le diable n'a pas tout à fait tort, puisque après 40 jours de jeûne, on peut bien manger, non? Oui. Mais Jésus pouvait bien sûr faire un miracle, mais se soumettre au diable, c'était là que ça n'allait pas. Et Jésus résiste au diable en lui citant la parole de Dieu, et il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme pour dire au diable, on peut manger, mais je ne t'écouterai pas. Ce n'est pas toi de me commander de manger. Et pour nous aussi, je crois que les besoins de la chair, Satan en profite souvent pour nous tenter. Et nous avons une magnifique arme contre les besoins de la chair. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Extraordinaire, l'arme de la parole de Dieu contre les attaques du diable. Et Satan nous tentera souvent dans nos besoins charnels, même les besoins les plus fondamentaux. Nos besoins de manger, besoin de boire, besoin de satisfaction, besoin de plaisir. Et il va transformer nos manques en addiction. Il va les transformer en mauvaises habitudes. C'est son travail. Afin que nous soyons spirituellement plus faibles. Alors, il y a un parallélisme magnifique entre les trois tentations de Jésus dans le désert et la tentation d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et aussi un verset dans 1 Jean 2:16 qui nous décrit les trois aspects de ces tentations. Et on est émerveillé de voir que dans trois passages aussi différents, les mêmes idées viennent avec une grande cohérence. C'est la cohérence de la parole de Dieu qu'on peut remarquer du début jusqu'à la fin de la parole de Dieu. Parce que Adam et Ève, par exemple, ont été tentés de la même façon. Il est dit dans Genèse 3:6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Et le chrétien devra souvent dire non en rappelant les versets de la Bible afin d'avoir la victoire sur ces démons-là. Et Jean, lui, il mentionne tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair ne vient pas du Père. Tout ce que ce monde offre est bien inspiré, bien souvent inspiré par la convoitise. Et le chrétien a souvent besoin de dire non, je n'y participe pas, parce que cela ne vient pas du Père, cela vient du diable. Il y a un beau chant que nous chantons parfois, et qui est attribué au sadhu Sundar Singh. Et il dit, « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Au monde, je dis non. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. » Un autre chant dit, « Désolé, mais je dis non. ce monde n'est pas ma maison. Alors, c'est vrai que le chrétien, il nage dans ce monde à contre-courant, et ce n'est pas toujours facile, et il y aura souvent des moments difficiles même. Et Jésus ne s'est pas laissé prendre, Satan non plus, lui n'abandonne pas, et il va essayer autre chose au verset 5. Il y a la deuxième tentation. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sous le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors voici ce qui est vraiment étonnant. Satan connaît fort bien sa Bible. Pour trouver ce passage dans la Bible, on a dû chercher. Et il se trouve dans le psaume 91, le verset 11 et 12. Donc, Satan connaît bien sa Bible. Et ça nous montre que bien connaître sa Bible ne veut encore rien dire. N'est pas encore une preuve que tout ce que nous faisons et tout ce que nous vivons est au nom de Dieu. Comme il est dit dans Matthieu 7, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et Jésus dira encore dans ce même chapitre « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Jacques aussi parlera des gens qui se croient religieux, mais ils trompent leur cœur et leur religion est vaine. Alors quand Jésus parle aux pharisiens, il ne ménage pas ses mots, parce que ces gens avaient une religion de parure, de paraître. Ils connaissaient bien l'Ancien Testament. Et ils se promenaient toute la journée en citant la loi à haute voix. Il portait des phylactères, c'est-à-dire des petites boîtes qui contenaient des versets de la loi et qu'ils attachaient à leur front ou à leurs bras. Pourtant, Jésus leur a dit qu'ils étaient des hypocrites. Vous annulez cette parole de Dieu que vous portez, vous l'annulez par votre tradition. Et il dira, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements, mais des commandements d'hommes. Alors voyez ici la ruse de Satan. Il veut offrir à Jésus une vraie expérience. Une vraie expérience exaltante, même spirituelle. C'est le vieux rêve de l'humanité, pouvoir voler et atterrir en toute sécurité. C'est le rêve d'Icare. Vous vous souvenez de cette histoire, qui avait essayé en vain. Mais Jésus a le secours des anges pour un atterrissage en pleine ville de Jérusalem. Il n'y avait pas un meilleur départ pour son ministère, cette ville de Jérusalem qui était remplie de monde. Imaginez-vous, Jésus descend du ciel et tout le monde le voit. Ça aurait été un magnifique départ pour son ministère, pour son travail. Quelle sensation pour Jésus, quel agrément pour la vue et pour les sens. C'est ainsi que Satan encore tente. Il fait miroiter sensation, agrément et beauté. Dans le jardin d'Éden, il est dit, la femme vit que l'arbre est agréable à la vue. Agréable à la vue. Et Jean dira tout ce qui est dans ce monde. La convoitise des yeux ne vient pas du Père. Alors combien le chrétien du 21e, combien nous avons besoin d'apprendre à dire au diable, quand il vient nous tenter avec des expériences extrêmes, que ce soit dans les amusements, les sports, la vitesse, la luxure, tant de choses. Combien le chrétien doit apprendre à ne pas dire oui et amen à toute expérience, même spirituelle, et à tout vent de doctrine. Quelqu'un a dit, l'Église est devenue tellement mondaine et le monde est devenu tellement religieux qu'il devient important de discerner ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Comme Paul dira, cherchez les dons les meilleurs, dont le discernement. Combien nous avons besoin de discerner à l'heure actuelle que nous vivons dans les derniers temps. Alors Jésus va simplement dire non avec un autre passage et il dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Une fois de plus, Jésus ne succombe pas, mais Satan va essayer une troisième fois. Et il est dit au verset 8 de Matthieu, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je connais des gens qui ont été prêts à donner leur âme au diable pour avoir la gloire. Satan va essayer de tenter Jésus-Christ homme dans ce qu'il a de plus humain et qui a fait chuter Satan lui-même au départ, c'est-à-dire l'orgueil. L'orgueil d'une position, l'orgueil d'une situation, d'une réussite, l'appartenance à une classe, la folie des grandeurs, l'orgueil de domination. Adam et Ève ont été tentés par cet orgueil-là lorsqu'il est dit, la femme vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et Jean dira, tout ce qui est dans ce monde, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père. Heureusement que là aussi, Jésus ne succombe pas et il dira à Satan, retire-toi de moi. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Le passage parallèle de la même histoire dans Luc nous dit que le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire qu'il va encore revenir. Alors, oui, nous devons apprendre à dire non au diable. Sachons lui dire, retire-toi de moi, retire-toi de ma femme, retire-toi de mes enfants, retire-toi de mon Église, au nom de Jésus, sur la base du sacrifice de Christ, je suis vainqueur parce que j'appartiens à Christ. Alors nous avons des textes, en effet, qui nous demandent de le faire et de ne pas accepter comme du pain béni tout ce qui vient du diable. Ne donnez pas accès au diable, Éphésiens 4. Puis nous avons ce récit magnifique dans Éphésiens 6, qui est magnifique, qui nous donne toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il y a la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, les prières persévérantes, qui sont des armes magnifiques, les armes de Éphésiens 6. Alors, Jacques nous fait une promesse, résister au diable et il fuira. Il fuira loin de vous. Alors Jésus a résisté au diable, il est encore là pour nous, un exemple. Et quand il a annoncé qu'il serait crucifié, qu'il a annoncé ça à ses disciples et qu'il va ressusciter le troisième jour, Pierre a voulu s'opposer à cette idée. Et il a dit au Seigneur dans Matthieu 16, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus n'a pas accepté. Et Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Alors, deuxièmement, Jésus a dit quelquefois non à des gens. Et cela est vraiment étonnant. Il y a les responsables du temple, par exemple, qui lui demandaient par quelle autorité il fait ces choses. Et il leur a répondu, « Moi non plus, je ne vous dirai pas. Non, je ne vous dis pas de quelle autorité je fais ces choses. » Alors, Jésus n'hésitait pas à dire la vérité aux pharisiens, et il dira, je prends plaisir à la miséricorde, mais non au sacrifice, non au sacrifice. Parfois, Jésus aussi refusait de faire ce que les gens lui demandaient, quand les gens viennent auprès de lui, rien que pour voir un miracle. Le plaisir de voir un miracle, Jésus leur dit non. Et quelques scribes au chapitre 12 et pharisiens dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et il répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas. » Le prophète Jonas qui proclame la repentance. Pour Christ, la repentance est plus importante qu'un miracle. Parce que c'est le plus grand des miracles, le plus important. Celui qui amène une personne à être réconciliée avec Dieu. Quel miracle extraordinaire. Ailleurs, il est dit au sujet de son village Nazareth, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Quelque part, Christ a dû refuser des miracles à cause de leur incrédulité. Et il est dit que même Jésus a dû reprendre sa mère, Marie. C'était lors des noces de Cana, et il dit à la femme, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et dans Jean 11, il y a un autre refus du Seigneur par rapport à la mort de Lazare, souvenez-vous. Dans Jean 11, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes. Lazare est malade. » Or, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare, mais il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Alors voilà, une attitude vraiment incompréhensible pour ces gens qui font appel au Seigneur. Et quand Jésus arrive finalement à Béthanie, Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Et Marthe ne comprend pas. Elle dit au Seigneur, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici. » Mais toujours dans Jean 11, Jésus donne les raisons qui l'ont poussé à agir ainsi. « C'est à cause de vous, dira-t-il aux disciples, afin que vous croyiez. Et je me réjouis que je n'étais pas là. Parce que ça va vous permettre de croire très fort. » Alors, nous sommes aussi toujours étonnés quand le Seigneur ne répond pas sur le champ. Nous voyons le Seigneur un peu comme le Zorro qui nous sauve de toute situation, comme le Saint-Nicolas, comme le Père Noël. Nous le voyons comme celui qui distribue des cadeaux, celui qui nous défend toujours, celui qui pardonne tout, quoi qu'il arrive, celui qui bénit, qui guérit, qui délivre et nous fait du bien. Et il y a du vrai, évidemment. Mais Dieu n'agit pas toujours comme nous voulons. Il n'agit pas toujours quand nous voulons. Il n'est pas obligé de tout faire comme nous demandons. Et voici un progrès qu'il aimerait bien voir chez nous. Il aimerait que nous puissions faire confiance en lui, en toute situation, même quand il ne répond pas, même quand il dit non. C'est ainsi qu'il aimerait fortifier notre foi, afin qu'elle devienne solide, résistante à toute épreuve. Et c'est ce que Jésus dira au verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Jésus est insistant et il ajoute encore cette phrase « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » L'importance de la foi, l'importance de garder la foi quand elle est mise en doute, quand nous ne sommes pas encouragés à garder la foi. Et vous connaissez la suite de l'histoire, Jésus va accomplir un plus grand miracle. Une guérison est un beau miracle, mais une résurrection est un plus grand miracle. Et c'est une leçon magnifique que Jésus nous donne ici. Quand il nous dit non aujourd'hui, demain il nous dira oui. Et ce sera pour accomplir un plus grand miracle. Une porte qui se ferme aujourd'hui est une autre porte qui s'ouvrira demain. Et Jésus le dira encore dans sa prière au verset 42. « Père, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Alors je termine par une troisième occasion significative où Jésus a dit non. Il a dit non à lui-même. Et ça, c'est vraiment étonnant. Puisqu'il était parfaitement homme et Dieu à la fois, il devait nécessairement avoir des conflits entre Dieu et l'homme en lui. Et tout ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani peut être très bien compréhensible. On peut même dire que la plus grande victoire de tous les siècles que Jésus a obtenue, ce n'est même pas quand il a dit non au diable ou quand il a dit non à des gens, c'est quand il a dit non à lui-même. Là, il a obtenu la plus grande des victoires. Parce que grâce à ce non-là, il a pu sauver l'humanité, vous et moi. Nous lisons dans Matthieu 26 ce combat que Jésus a mené contre lui-même quand il est dans le jardin de Gethsémani et qu'il sait qu'il va être trahi et arrêté. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse, des angoisses. Il dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici. » Et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non. » Non. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y a là un combat terrible entre ce qu'il veut et ce que Dieu veut. Et Jésus-Christ, homme, réagit comme tout homme. aurait réagi. Jésus craignait la croix. Il avait peur de la trahison imminente, de l'arrestation. Il avait peur des mensonges lors des procès, les moqueries. Il avait peur de la crucifixion, peur de la douleur, peur de la souffrance, la nudité, la soif, l'abandon de son Père. C'était certainement la plus grande des souffrances par lesquelles il allait passer. Alors Jésus, dans sa logique humaine, demande à Dieu, il n'y a vraiment pas un autre moyen pour sauver l'humanité? Il n'y a pas un autre moyen que de devoir y aller tout seul vers ce sacrifice terrible et humiliant? Et certainement que là, Satan se frottait les mains. Il se frottait les mains. Ce n'est pas écrit, mais certainement qu'il a insufflé cette idée au Seigneur. Jésus, tu ne dois pas aller jusqu'à la croix. Tu ne dois pas supporter cette honte. Tu ne vas quand même pas porter sur toi tous les péchés du monde. Appelle 12 légions d'anges pour te sortir de là. Tu es fils de Dieu, tu es Dieu. Et Jésus est devant un choix terrible, sa volonté ou la volonté du Père. Et le combat spirituel sera terrible jusqu'à transpirer des gouttes de sang. Il y a un nom scientifique pour cette maladie, transpire des gouttes de sang. Mais c'est connu, c'est rare, mais c'est connu. Et ça, sans l'aide des disciples qui sont endormis. Heureusement, il a pu dire non à lui-même et oui à Dieu. Ce sera son choix final. Le choix est pris. Désormais, il fera tout pour ne pas éviter le sacrifice. Alors il décide de dire non à ses émotions, à sa propre volonté, à son angoisse. Il refuse de se prendre lui-même en pitié. Quel exemple le Seigneur quand même. Et ce non est vraiment le signal de départ de la plus grande victoire jamais connue. Elle permettra son sacrifice qui par son efficacité remplace tous les autres. Un sacrifice unique pour supprimer tous les autres devenus obsolètes. Parce qu'à Golgotha, Jésus obtient la réconciliation des hommes avec Dieu. Il obtient la victoire décisive sur Satan et ses anges, sur le péché et sur la mort. Et il dira dans Jean 6, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors voilà, les plus grandes victoires de notre vie viennent lorsque nous prions ainsi. Non pas ma volonté, Seigneur, mais que ta volonté se fasse. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Montre-le-moi, aide-moi à discerner. L'apôtre Paul aussi parle de ce combat intérieur. Je crois que nous avons déjà tous eu ce combat intérieur entre nous-mêmes et Dieu. C'est un combat qu'il faut mener. Quand il dit dans Romains 7, j'ai la volonté, mais non, le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est une lutte dans mon entendement. Et c'est au chapitre 8, le suivant, qu'il va exprimer la victoire sur ce dilemme intérieur. La victoire est possible grâce à l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et il expliquera que grâce à Christ, il n'y a plus de condamnation, plus de servitude, plus de séparation, plus de perdition. Et ce sera vraiment une victoire surprenante. C'est le combat entre la chair et l'esprit. Les deux sont opposés dans leurs désirs. Il faut savoir dire non à soi-même et savoir dire oui à l'Esprit de Dieu, à la volonté de Dieu. Oui, Jésus a connu ce combat et il l'a vaincu. Et par ses mérites, nous pouvons aussi vaincre ce combat. Lorsque nous sommes dans un tel combat spirituel avec nous-mêmes, nous pourrions dire, « Seigneur, mais accepte-moi comme je suis. Pourquoi faut-il changer quoi que ce soit ? Personne n'est parfait, Seigneur. » Oui, voilà les arguments que nous employons. Mais le Seigneur, il nous a placés sur un chemin de progrès. Et au bout de la course, c'est la perfection qu'il va nous offrir au bout de la course. Et en attendant, nous marchons de progrès en progrès. Nous avançons avec son aide, selon son exemple, en comptant sur son esprit et sur ses mérites sur la croix. Et nous pouvons saisir la victoire, parce que lui l'a déjà saisie pour nous, à notre place. Et le cheminement de la vie chrétienne normale est une victoire sur nous-mêmes, une libération sur nous-mêmes, une libération de nos complexes, de nos blocages, nos aveuglements, nos propres servitudes dans lesquelles nous sommes, même nos ambitions erronées dont Dieu voudrait nous délivrer. Comme l'a dit le sociologue Edgar Morin, il y a quelques jours, le 8 juillet, il a fêté ses 102 ans. Sans être vraiment chrétien engagé comme nous, il a quand même dit beaucoup de bonnes choses, dont cette belle phrase. On n'est pas vraiment libre si on est incapable d'agir sur soi-même. On n'est pas vraiment libre si on est incapable d'agir sur soi-même. Alors, beaucoup de gens disent, je ne vais jamais changer. Tel que je suis, je vais toujours rester. Et si on ne me veut pas comme ça, qu'on aille voir ailleurs. Mais moi, je ne change pas. Je suis comme je suis. Et je suis bien comme je suis. Et Edgar Morin dit, avec ce langage-là, on n'est pas libre. On n'est pas libre. Parce que la libération, c'est de pouvoir dire non. C'est pouvoir dire non à Satan. C'est de pouvoir dire non au monde. Et de pouvoir dire non à soi-même. C'est de pouvoir dire non. Je veux changer. Je veux adopter les voies du Seigneur. Je veux marcher selon sa volonté et pas selon ma volonté. Alors je termine. Christ a pu dire non à Satan. Nous aussi, nous pouvons dire non à Satan, parce que nos combats contre Satan sont déjà vaincus à la croix. Colossiens dit que Christ a publiquement livré les dominations en spectacle, en triomphant d'elles sur la croix. Donc nous pouvons dire non aux tentations de Satan. Toutes ces tentatives d'intimidation, de manipulation, les liens qu'il voudrait nous attacher pour être emprisonné dans ses addictions. Non, arrière de moi, Satan. Jésus a su dire non aux gens et au monde. Nous aussi, nous pouvons être victorieux dans des combats contre des gens qui ont des mauvaises influences. Dans Colossiens encore, il est dit que personne ne vous trompe, que les gens ne vous trompent pas par des discours séduisants, que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne vous juge, que personne ne vous ravisse à son gré, subissez pas de mauvaises influences. C'est une belle victoire de pouvoir dire non à tout ce qui s'oppose à Dieu. Et troisièmement, vous êtes en combat avec vous-même. Soyez-en assurés. Christ a gagné ce combat. Vous pouvez vaincre en son nom, par son esprit, par sa victoire sur la croix. Du fait qu'il a souffert lui-même, dit Hébreux 2, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté lui-même, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut secourir, il peut combattir, il peut nous aider à dire non. Alors voilà, nous voulons juste terminer par la prière et prendre cette parole de Dieu à la lettre, chacun pour soi, afin d'obtenir du Seigneur une grande victoire en ce jour, lorsque Dieu dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Malachie 3, le verset 10, merveilleux passage. C'est ce que nous voulons faire. Prions. Ô Seigneur, combien nous voulons te remercier pour ta parole. Ta parole est une lampe sur notre sentier. Ta parole est précieuse. Nous l'aimons, Seigneur. Seigneur, tu as tout accompli pour que nous soyons des chrétiens victorieux. Nous voulons te remercier pour les armes qui sont à notre disposition. Oui, Seigneur, tu nous donnes la ceinture de la vérité, la cuirasse de justice, les chaussures qui sont le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi. Et nous pouvons éteindre le trait enflammé du malin. Tu nous parles du casque du salut. Merci pour ton salut. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu nous donnes cette arme de la prière persévérante. Nous voulons maintenant, Seigneur, nous approcher de toi pour que vraiment tu nous donnes une grande libération. Nous voulons vaincre, Seigneur, la mauvaise influence des gens sur nous. Nous voulons obtenir des victoires. Tu nous veux libres, Seigneur. Nous croyons que tu as tout accompli pour notre liberté. Nous voulons l'expérimenter par la foi, en comptant sur l'efficacité de tes mérites sur la croix. Oui, Seigneur, tu connais les combats que nous menons, chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons des combats sur nous-mêmes. Ô Seigneur, donne révélation. Donne révélation sur ta volonté. Que veux-tu, Seigneur, que je fasse? Où veux-tu, Seigneur, que j'en vienne? Quelle décision veux-tu que je prenne? Ô Seigneur, montre-le-nous par ton esprit et accorde-nous la victoire sur tout ce qui déplaît, qui n'est pas conforme à ta volonté dans nos vies. Ô oui, Seigneur, nous voulons te suivre, nous voulons t'imiter, nous voulons avoir, Seigneur, les sentiments qui étaient en toi. Nous voulons que ta vie nous influence. Nous te remercions, Seigneur, pour cette grande délivrance que tu nous accordes, parce que la victoire, elle est en toi. Elle est en toi, en ton nom, nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.